Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, enfin non, le FC Stream Team, non, le masque et la plume, puisque on avait vraiment envie de parler de cinéma, parce que, alors moi pendant un temps, mais ça c'est normal, c'est les jeunes parents qui vivent ça, c'est-à-dire qu'on voit les films à rebours,
ah oui, voilà.
Non, et généralement même on les voit pas, on attend qu'ils passent à la télé, et Martin lui, il a vu la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes, qui est un film formidable, Anatomie d'une Chute. Martin, est-ce que tu
l'as vu? Je l'ai vu lundi avec... j'ai trouvé ça extraordinaire. Et la justesse, ouais. La justesse des comédiens, incroyable. Bon, j'ai raté une demi-heure.
Oui, parce qu'en fait...
Non, voilà. Mais en fait, j'ai eu un problème.
Voilà pourquoi je voulais parler de ça. C'est pas tant du film qui est vraiment formidable, une justesse absolue. Ouais. Mais de Martin devant Anatomie d'une... C'était Anatomie d'une chute aussi pour toi.
Oui, Anatomie d'une chute de tension. Ouais, j'ai un peu roupillé. En fait, le problème, c'est que... Bon, il y a deux soucis. C'est que déjà, je vais assez peu au cinéma puisque j'ai des enfants en bas âge. Et donc, quand j'y vais, je vais vraiment voir les films qui comptent. Donc là, je vais voir Anatomie d'une chute. Donc, je vais dans un cinéma à Montparnasse. Figurez-vous que déjà, je dois payer 4 euros en plus, que je ne savais pas, parce que c'est le truc premium. Je ne donne pas la marque du cinéma, mais c'est du premium. Donc déjà, ça coûte...
Ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé au cinéma.
Ouais, la peau des fesses, premium. Et là, je me retrouve dans une salle où il y a des pieux. Il y a des lits. Il y a des lits. Donc moi déjà, je dors en ce moment 4 heures par nuit. Là, je me retrouve dans une salle noire après le repas à 14 heures dans un pieu. Donc tu peux me mettre le meilleur film du monde. Tu peux me mettre mais vraiment le truc exceptionnel. Tu peux me mettre Interstellar. Forcément, je vais roupiller. Donc effectivement, j'ai dormi, on va dire, les 3 premiers quarts d'heure, mais parce que je pouvais faire autrement en fait.
Et donc, tu t'endors quand il y a la musique dans la maison au début ou non?
Non, alors non.
C'est elle est assez lancée.
Non, je vois quand même un petit peu le début, mais après effectivement j'ai une chute de tension qui dure 45 minutes, mais ce qui ne m'a rien. J'ai dû rater d'autres trucs. En plus, généralement, je me réveille, je suis exécrable avec ma femme parce qu'elle me met un coup de coude, donc je la dégomme. Ce qui n'est pas bon du tout parce que voilà, je m'en veux après. Mais j'ai quand même adoré ce film.
T'es en train de parler de violence conjugale.
Non, mais je la pourris. Mais en même temps, ils te foutent. Je te jure.
Oui, je sais. Je connais, je suis déjà allé moi.
Attends, t'as des lits. T'as des lits au premier rang.
Et t'as aussi des sièges maintenant sans accoudoir où tu peux te mettre à deux.
C'est incroyable.
Non, mais alors, en revanche, c'est vraiment un film d'une justesse incroyable. Et vraiment, mais dans tout, dans le dispatch des infos et les acteurs.
En tout cas, la dernière heure et demie est incroyable.
Et autre chose, moi, pour avoir fait. C'est la première fois cette année que je faisais un cinéma aux États-Unis.
Ouais, allez, il faut qu'il l'arrête.
Là, t'es servi. Non, mais c'est encore pire. C'est-à-dire que là, si t'es fatigué, tu peux être servi à manger dans la salle. C'est pas des pop-corn. C'est un repas. Et là, le repas américain, alors je ne l'ai pas fait. Hein. Mais là, je pense que si tu es un peu crevé, tu roupilles pendant tout le film. Et c'est plus du cinéma. Voilà. Bon, bref, en tout cas, bravo pour
en tout cas, l'expérience premium. Je ne sais pas si je vous la conseille au fond, parce que moi, je n'avais pas envie d'aller au cinéma pour pioncer.
Ouais, mais ça m'est déjà arrivé. Alors, tu sais ce qui est bon alors.
Non, mais ce qui est dur.
Ça arrive.
Tu sais ce qui se passe? C'est tout le temps pareil.
Que tu luttes.
C'est que je me dis, là, je ferme juste les yeux 5 minutes. Et on va voir ce qui. Et mais au bout de 5 minutes, je me réveille. Parce qu'en plus, quand le film est bien, ça me fait chier de m'endormir.
Alors que moi, il y a eu des fois je me suis laissé aller. Bon, c'est pas la peine.
Ah, mais moi aussi, pareil.
On y va. Je me suis coulé. Mais généralement, je dors pas assez longtemps pour être finalement bien reposé. Je me réveille un peu trop tôt. Est-ce que tu sais quel jour on est, Martin?
On est vendredi.
Le 17 novembre.
17 novembre.
Et c'est ce qui s'est passé il y a 30 ans, jour pour jour.
Oui. France-Bulgarie.
Purée.
Ouais. Ouais.
Et c'est quand même, alors ça, et on va en parler, parce qu'on va parler de l'équipe de France. Mm. On va pas parler de France-Bulgarie, même si je pourrais vous faire 2 heures dessus. C'est l'ultime traumatisme du football français.
France-Italie.
Oui, mais France-Italie, c'est pas un traumatisme pareil. T'es arrivé en finale Coupe du Monde. Là, c'est-à-dire c'est le néant et on t'enlève le dessert. Parce que le dessert, tu l'as eu un petit peu. Évidemment que c'est traumatisant de perdre une finale de Coupe du Monde. C'est traumatisant de perdre France-Argentine.
Mais je pense même pas à France-Argentine, c'est fou.
Ouais, mais il y a quand même une forme de satisfaction et de devoir accompli. Oui. Là, c'est vraiment... Et pour vous dire que là, vous allez vivre un France-Gibraltar, un Grèce-France sans aucun intérêt. Mm. et que vous aviez ces matchs-là. Moi, je regrette ces matchs-là, voilà.
Oui, mais c'est vrai. Mais c'est aussi du fait de l'équipe de France qui domine tout, parce que les Italiens, ils en ont là, des France-Bulgarie, ils en ont,
oui,
les,
voilà,
Italiens.
Ah, mais eux, c'est, là, c'est, ouais, c'est un autre problème.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que aussi l'équipe de France a créé un tel fossé. Il y a un cordon sanitaire entre l'équipe de France et les autres. Alors, en compétition, mais
c'est parce qu'il y a 36 qualifiés aussi.
Encore plus, mais, ouais, oui, mais évidemment, mais encore plus en phase de qualification où aujourd'hui ils marchent sur tout le monde et effectivement, il y a plus de France-Bulgarie. Mais moi, je préfère qu'il y ait plus de France-Bulgarie personnellement.
Ah, moi, j'aimais bien quand même quand tu flippais un
mais
peu.
Mais le France-Ukraine était fantastique de ce point de vue.
France-Ukraine était fantastique. Et dernier sujet, parce que là, pour le coup, des fois,
ah oui, donc toi, Maxime,
il faut que j'en parle. Je suis obligé. Je suis obligé.
De quoi tu veux
parler ? Martin, on a un peu parlé. Martin, c'est quoi cette moustache ?
C'est pas une moustache, c'est.
Bah, non, les gens qui regarderont. Alors allez sur onsport.fr, essayez de choper les extraits vidéo de l'émission.
Mais c'est toujours pareil.
Moi je me suis rasé il y a deux jours.
C'est à cause de mes gamins. Oui, mais c'est à cause de mes gamins. C'est-à-dire hier soir, je me suis dit, je vais pouvoir me raser avant, voilà, avant de venir le vendredi. Je me rase tous les vendredis matin parce que je sais que j'ai l'émission. Et là, ce matin, c'était la galère avec là, les gosses. Et voilà, à un moment, il faut faire là, des choix dans la vie.
Là, c'est Movember. Là.
C'était soit je changeais pas le caca de ma fille qui allait à la crèche. Soit je me, ouais, voilà, soit je me rasais. Donc à un moment donné, j'ai choisi l'hygiène de ma fille.
Bravo.
Et pas la mienne.
C'est pas... Bravo. Et c'est moi qui en subis les conséquences.
Ouais, et ceux qui nous regardent aussi. Ouais, c'est vrai que c'est immonde.
Et non, mais faudrait, là, l'audace, ce serait de continuer à laisser pousser.
Non, non. Mais en plus, je pourrais dire c'est Movember, tout ça. Rien du tout. Movember, je peux pas le faire. J'ai pas de moustache. J'ai un balai à chiottes en dessous du nez. Voilà. Donc c'est pas beau, c'est pas joli. Ça me va pas. Voilà,
non, mais ça fait un peu Brigade du Tigre.
Ouais, là c'est une brigade du chaton là, ouais, parce que là il y a ça a rien de tigre là.
Bon, on va parler football quand même, bah oui, parce qu'on est là pour ça.
T'as pas autre chose à dire, Maxime?
Non, bah, si j'aurais un dernier, ouais, bah, je pourrais trouver, mais non, on va s'arrêter là.
Ouais, ok.
On va parler football évidemment, et on va parler en gros équipe de France sur la grosse demi-heure qui va nous occuper à partir de ce moment. Et on va d'abord parler d'Olivier Giroud. C'est un sujet dont on voulait parler déjà lors du précédent rassemblement, parce que on se rend compte qu'il y a un débat nouveau autour d'Olivier Giroud.
Ouais.
Et j'avoue que, alors, je peux un peu le comprendre, mais j'avoue qu'il nous étonne et on vous expliquera pourquoi dans la première partie de l'émission.
Deuxième partie de l'émission, on parlera de Kylian Mbappé qui va s'exprimer dans quelques heures. On vient de l'apprendre juste avant de démarrer l'émission, qui va donc s'exprimer pour la première fois depuis le 15 juin en tant que capitaine de l'équipe de France. Donc il aura quelques dossiers à ouvrir et on va voilà, revenir sur son année de capitana. Et ben voilà, on va faire un premier bilan finalement.
Et on parlera dans le dernier sujet de l'émission sur Warren Zahir Emery. Je suis un peu comme Didier Deschamps, j'ai du mal à le dire. Et justement, on verra qu'il est rentré dans la galaxie des grands joueurs le jour où on le dira d'une traite. Mais Warren Zahir Emery, c'est un peu dur. Mais en tout cas, on va se poser la question de déjà son arrivée en équipe de France et de se dire, est-ce que de le propulser maintenant et peut-être pourquoi pas titulaire, ce serait le risque de le griller. Ce sera le dernier sujet de l'émission. Émission qui est à retrouver, les meilleurs extraits évidemment, sur eurosport.fr avec la moustache de Martin et le podcast sur toutes les plateformes habituelles. Pour une fois, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Mais en gros, vous tapez Grand SI. Grand SI.
Ah là 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 là.
Vous tapez FC Stream Team podcast et vous nous trouverez. Vous irez écouter notre prose, Martin.
Exactement. Allez, on va démarrer avec Olivier Giroud qui est en concurrence donc avec Randal Kolo Muani et Marcus Thuram, qui est a priori en concurrence. Hein. Oui. Il y a Deschamps qui a dit que Marcus Thuram aurait plus de temps de jeu durant ce double affrontement international. On va se poser la question, est-ce que c'est bien raisonnable de mettre Olivier Giroud en face de Randal Kolo Muani et Marcus Thuram? Juste en préambule, je vais juste rappeler des statistiques et après, Maxime, je te laisserai parler. En équipe de France, Giroud, c'est un but toutes les 131 minutes, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui est quand même pas mal. Hein, oui. Ce qui est quand même pas mal. Kolo Muani, c'est un but toutes les 610 minutes. Et Marcus Thuram, c'est un but toutes les 460 minutes. Maxime, est-ce que tu comprends qu'on mette face à face, en concurrence, Giroud, Thuram et Kolo Muani?
Alors oui, je comprends qu'on les mette en concurrence. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe de France et que la concurrence fait partie du jeu. On est au plus haut niveau et un joueur comme Olivier Giroud est plutôt bien placé pour savoir ce qu'il faut donner pour gagner une place de titulaire en équipe de France. On le rappelle, il est arrivé en 2011 à 25 ans. Il a eu Benzema dans les pattes et pendant longtemps, enfin du moins même quasiment toujours quand Benzema était là, Benzema lui passait devant. Voilà.
Même quand il est revenu d'ailleurs.
Ouais, il s'est toujours accroché. On en est à 127 sélections, 54 buts. Ça fait lui le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Moi, la seule chose qui m'étonne là-dedans, c'est pas la mise en concurrence parce qu'elle est naturelle. Et puis, bah, Olivier Giroud, il a 37 ans. Alors, on va voir après qu'il n'a pas forcément exceptionnellement ralenti. Mais il n'empêche que 37 ans, bah, on sait qu'il n'y en a pas pour trois ans en équipe de France. Moi, je pense que l'Euro, c'est terminé après. Voilà. Mmh. Donc, Didier Deschamps, il prépare aussi l'avenir. Et au-delà de préparer l'avenir, parce que c'est toujours un avenir très, très réduit en équipe de France, parce qu'on ne peut pas non plus tirer des plans sur la comète, c'est de voir ce qu'il a comme solution derrière. Parce que l'erreur, justement, ce serait de se dire « Ok, il y a Giroud et après lui, le déluge. » Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, Olivier Giroud, il est deuxième meilleur buteur de Serie A. Il a marqué 7 buts. Donc, a priori, la thèse du ralentissement tient guère. En revanche, c'est vrai qu'en équipe de France, tu donnais les chiffres globaux. En équipe de France, il n'a marqué qu'un but depuis la Coupe du Monde et contre Gibraltar. Mais...
Voilà, j'allais dire le même, mais vas-y.
Il a joué 3 fois, en gros, 1 heure de jeu en 7 matchs. C'est-à-dire que le reste du temps, c'est des bouts de match. Donc, évidemment que les statistiques sont moins importantes. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a une volonté d'Didier Deschamps de faire bouger les lignes, de faire grandir les attaquants. On avait vu Thuram, on avait vu Colomoni pour la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde, ça a joué. Donc, il est aussi dans cet équilibre-là de garder ses forces vives, garder la force vive Giroud et la valeur Giroud dont il sait ce qu'elle vaut, et de faire grandir les autres. Moi, ce qui m'étonne, encore une fois, pour revenir à ce que j'ai au début, c'est qu'on a vu fleurir dans la presse qu'il y avait un problème d'avant-centre. Ouais. Alors, il y a un problème Colomoni, ça c'est certain, mais c'est plus lié au PSG et à ce qu'il traverse actuellement.
En équipe de France, il n'a pas marqué depuis longtemps.
Oui, justement, puisque l'attaque du PSG ressemble beaucoup à celle de l'équipe de France, à sa relation et sa complicité avec un Mbappé, voire un Dembélé. Et pour le reste, je ne vois pas trop de problèmes. Justement, moi je me dis que si c'est de mettre en concurrent Giroud, Thuram, une fois toi, une fois moi, sachant que c'est des joueurs qui se ressemblent globalement, sans doute que Thuram est un peu plus fort techniquement et peut participer un peu plus au jeu que Giroud. Mais en tout cas, ce ne sont que de bonnes solutions. Ce que je ne comprends pas, Martin, voilà, encore pour terminer, c'est qu'on se dise aujourd'hui, y a peut-être un problème Giroud et il faut voir à changer ça, je ne comprends pas.
Bah, moi non plus. Il y a 11 mois, il faisait la meilleure compète internationale de sa carrière, Olivier Giroud, hein, en Coupe du Monde. Hein. Si vous vous souvenez que, par exemple, l'Angleterre, c'est un peu grâce à lui. Enfin, voilà. Bon, bref. Moi, je trouve qu'il y a un miroir. C'est même pas un miroir grossissant, c'est un miroir déformant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, tout repose sur la dernière finale de la Coupe du Monde où, effectivement, Giroud était aux fraises et où les deux sont rentrés et ont fait une super entrée. On a l'impression qu'ils vivent un peu là-dessus, quand même, Thuram et Colomoigny. Parce que depuis, alors que Thuram a eu beaucoup moins d'occasions, mais Colomoigny est devenu... Colomoigny, depuis la Coupe du Monde, est devenu l'avant-centre titulaire de l'équipe de France. Est devenu la solution numéro une. C'est lui qui joue les matchs les plus importants et c'est lui qui a le plus de temps de jeu. Or, la seule fois où il a été bon, c'est en Irlande où il joue ailier droit. Donc ça devrait quand même mettre la puce à l'oreille. Ouais. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas mettre en concurrence Olivier Giroud avec Randal Colomoigny et Marcus Thuram dans la mesure où c'est pas les mêmes, pas le même rendement en équipe de France quand même. Et puis en club, tu l'as dit, Giroud, tout se passe très bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je comprends l'idée de Deschamps, effectivement, comme tu le disais, d'un peu utiliser les trois, parce qu'en plus, là, la qualif, elle est en poche, ils n'ont jamais été en danger, donc allons-y. Mais si la compète devait démarrer demain, pour moi, il n'y aurait pas photo. C'est-à-dire que Giroud serait titulaire, évidemment. Je ne parle même pas que de son expérience en bleu, je parle de son efficacité, je parle aussi de sa complémentarité. Moi, Mbappé, Colomoigny, ça ne m'a pas fait tomber de ma chaise. Marcus Thuram, on l'a trop peu vu. Il fait un bon début de saison avec l'Inter de Milan. Bon, il ne marche pas non plus sur la Serie A. Ce n'est pas non plus une métamorphose absolue de Marcus Thuram. C'est très bien ce qu'il fait avec l'Inter Milan. C'est très, très bien. Il marque des buts. Et surtout, il est fixé au poste d'avant-centre. On parle d'Olivier Giroud, encore une fois. Et il faut faire attention à une chose. Et je trouve qu'on le fait trop souvent avec l'équipe de France. C'est qu'on a tendance à oublier un peu ce qu'apportent les piliers de cette équipe de France. Antoine Griezmann, Olivier Giroud, ces mecs qui sont là depuis toujours sous le mandat de Didier Deschamps, ce sont des mecs fondamentaux. Et demain, si tu dois faire sens, si tu dois t'en passer, c'est un petit peu un saut dans le vide. D'autant que pour moi, il n'y aurait pas de problème si Colomoigny avait été, avait montré des choses, avait prouvé qu'il pouvait être plus qu'un recours, qu'il pouvait être un concurrent, une solution équivalente à celle d'Olivier Giroud. Tant que ce n'est pas le cas, pour moi, il n'y a pas de concurrence entre les trois. Pour moi, il y a Giroud et les deux autres derrière.
Alors, moi, je mettrais Colomoigny en retrait parce que.
Marcus Thuram, Maxime.
Laisse-moi développer.
Je te laisse.
Parce que, encore une fois, Colomoigny avançante, je ne suis pas convaincu. Et surtout, Colomoigny avançante avec les joueurs qu'il a autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la complémentarité de profil. Faut savoir jouer dos au but, faut savoir un peu jouer des coudes dans la surface. Et ça, Colomoigny, je ne pense pas. Comme tu l'as dit, jouer à droite, ça l'avait fait. Et je pense que l'avenir, pour moi, pour lui, se situerait plus là. Pour revenir à Marcus Thuram, je pense que Marcus Thuram est beaucoup plus proche de Giroud, évidemment, et non pas seulement lié parce qu'il joue dans la même ville. Et J'ai dit dans mon préambule que Giroud n'avait joué que 3 fois plus d'une heure depuis la Coupe du Monde, ce qui fait que quand on a 20 minutes de jeu, c'est pas toujours évident de se mettre en valeur. Bah, Thuram, 14 sélections, il joue 3 fois plus de 60 minutes. Ouais. C'était sa première sélection qu'il joue. Et la finale de la Coupe du Monde où il joue 100 minutes, et contre l'Irlande où il rentre en jeu très tôt dans le match, je crois qu'il lui remplace Giroud d'ailleurs, il me semble, ouais. Et il marque. Ce qui fait que quand il a du temps de jeu... aussi il s'est montré des choses, donc lui aussi il y a ça, il y a ce combat là surtout quand vous êtes un, non pas un jeune joueur, s'il n'est pas si jeune d'ailleurs Marcus Thuram, mais 26 ans, quand vous êtes un novice en équipe de France, il faut aussi du temps. Moi j'aime bien le profil de Thuram parce que c'est ce qui ressemble vraiment dans tout le panel d'attaquants d'équipe de France qu'on a, qui ressemble le plus à Giroud, avec une petite pointe technique supplémentaire, moins fort dans les airs. En fait, ils ont tous, oui, les deux. Ils ont un socle un peu commun d'avant-centre.
Mais pas les mêmes qualités.
Mais pas les mêmes qualités. Sachant que Thuram, au début, on l'avait vu, notamment ses premières, une des premières sélections, je crois que c'est contre la Suède, où il est pas mal. Il joue sur un côté.
À gauche, ouais.
Et on voit qu'il est pas mal aussi. Donc, en plus, il a un panel très intéressant. Donc, moi, je suis pas dérangé par la mise en concurrence, parce que je pense qu'elle est saine. Et encore une fois, Didier Deschamps ne peut pas non plus se permettre de dire, je mets Giroud 90 minutes tous les matchs et après on voit bien ce qui se passe. Parce que si Giroud finit par disparaître pour X raisons.
Mais il disparaîtra dans un an.
Il disparaîtra, oui, dans un an. Oui, mais tu ne sais jamais. Tu es obligé quand même de préparer la suite et de donner. Et je pense que Thuram, encore une fois, je pense qu'il est meilleur que ce qu'on peut penser.
Moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends qu'il y a une mise en
mais
concurrence.
Mais je le répète, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas le problème Giroud. C'est le seul.
Non, il n'y a pas de problème Giroud. Et puis surtout, pour moi, il y a quand même une hiérarchie aujourd'hui. Il y a quand même pour moi une hiérarchie qui me semble claire. Or, quand effectivement tu lis tout ce qui se passe, Didier Deschamps aussi, qui dit sur Randal Colomoy, il l'a dit cette semaine, vous ne l'aimez pas Colo, vous êtes très très sévère avec lui, trop sévère, moi je l'aime peut-être trop, mais vous ne l'aimez pas assez. Moi avec Colomoy,
mais c'est un très bon joueur, mais là il n'est pas dans une bonne passe aussi.
Il n'est pas dans une bonne passe, et puis, ouais, mais depuis en équipe de France, ça fait longtemps qu'il passe, depuis mars finalement, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde. Il monte pas grand-chose. En mars, il était encore à Francfort.
Oui, parce que souvenez-vous, premier match, si je ne m'abuse, l'attaque, c'est Colomoy en pointe.
Oui.
Donc là, on se dit,
mais oui,
c'est parti.
Mais
oui, c'est pas si évident que ça. Il faut le déboulonner.
Après, je dis pas que ce sera pas la solution demain, mais en l'occurrence aujourd'hui, il ne m'a pas montré assez de garantie. Je trouve que Didier Deschamps, mais parce que voilà, Didier Deschamps, il a fait pareil avec Upamecano et ça a fonctionné. On va pas non plus lui. Et puis il voit des choses que nous on voit pas. Moi, je ne dirais pas que j'aime pas Colomoy et je ne vois pas pourquoi les gens n'aimeraient pas Colomoy, mais on se fie juste à ce qu'on voit sur le terrain. Et pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup trop insuffisant pour concurrencer Olivier Giroud. Si c'était un autre, à la limite, si Giroud avait pris sa retraite, qu'on parlait de, je ne sais pas, Wissam Ben Yedder, ok, d'accord, pas de problème. Là, on parle d'Olivier Giroud et respectons ce qu'il a fait, et même pas ce qu'il a fait, respectons ce qu'il fait aujourd'hui.
À l'instant T, si je te demande projeter sur le match d'ouverture de l'Euro, qui tu imagines en pointe
C'est évident, c'est Giroud.
Je suis pas sûr. Quand même.
Non, mais qui je mettrais moi? Qui j'imagine?
Oui.
Ce sera peut-être Colomoy, parce qu'effectivement, Didier Deschamps.
Ah, mais moi, je mets une pièce sur Thuram.
Ah ouais, non, pour moi, il part plus loin, mais bon.
Ah non, mais il part pas derrière Colomoy.
Dans le profil, non. Mais en tout cas, quand tu regardes sur la répartition du temps de jeu, Thuram, il a pas une titularisation quand même. Hein.
Aussi au tout début, mais
non, mais je veux dire depuis la fin de la Coupe du Monde, depuis Colomoy.
Oui, mais je pense que Thuram, justement, c'est le, en fait, c'est marrant, et alors, on va pas faire une digression là-dessus, c'est un peu la gestion intelligente de la carrière, on dira jamais assez.
Je pense que serait temps qu'elle explose quand même, mais
ça va.
Oui, ça va.
Alors ça c'est un bon truc, c'est-à-dire que c'est pas parce que Colomoy a décidé d'aller au PSG, d'aller s'empiler avec Mbappé et compagnie, que Thuram a tort. Je pense que papa Thuram avec le fils, ils ont fait le bon choix en disant, on ne va pas céder à ça. Le type, il est attaquant de pointe dans l'équipe qui a joué la finale de Ligue des Champions. Alors là, je pense que pour le coup, on verra à long terme, parce que c'est sûr que là, on peut dire, oui, il signe au PSG, c'est plus clinquant sur le papier. On en reparlera.
On en reparlera. Allez, on va enchaîner avec le deuxième sujet. Un deuxième sujet qui nous a filé sous le nez, juste quand on est rentré dans le studio, puisqu'on a appris qu'Kylian Mbappé allait parler en conférence de presse à 17h cet après-midi. Donc à l'heure où on enregistre ce podcast, il n'a pas encore parlé, ce qui nous met dans une situation plutôt délicate, surtout qu'on avait un sujet là pour dire qu'en gros il serait temps de parler Kylian. Écoute, je crois simplement qu'il est dans nos pensées, tout simplement.
Ouais, on va juste faire le bilan. Finalement.
On va faire le bilan. Calmement, comme les Neymar.
On va faire le bilan de sa première année de capitana, une année un peu raccourcie parce que c'était à partir de mars, encore 2023.
On n'est pas tout à fait d'accord. On n'est pas tout à fait. Voilà, vas-y, continue Maxime. Mais là, du coup, c'est sans filant, on n'a rien préparé, donc on y va.
Bon, mais je vais te lancer très simplement, Martin.
Oui.
quel bilan tires-tu de la première année de Capitana de Kylian Mbappé? Et est-ce que Didier Deschamps, avec un peu de recul, a fait le bon choix en nommant l'attaquant du Paris Saint-Germain?
Oui, quelque chose qui me dérangeait, mais qui du coup ne me dérange plus, c'est qu'effectivement, parler qu'une seule fois, il a parlé deux fois, je crois, mais la dernière fois, c'était le 15 juin, à un moment, tu dois incarner quelque chose. Tu dois incarner l'équipe de France, t'es capitaine, t'as des devoirs. Effectivement, on sait que quand Lloris, il parlait, lui, pour rien dire. Or, quand Kylian Mbappé ouvre la bouche, il y a le monde qui s'arrête de tourner. Donc, effectivement, on pouvait comprendre qu'il n'intervienne pas tous les mois pour dire des choses, parce que ça devenait ça vampirisait trop l'actualité de l'équipe de France. Après, moi, je trouve qu'à son crédit, bon, déjà, il y a les résultats de l'équipe de France. Je veux dire, il n'a pas foutu le feu. J'ai l'impression que les joueurs, il incarne une génération. Et cette génération a pris le pouvoir depuis la fin de la Coupe du Monde. Cette génération, c'est qui? C'est les Thuram, les Kolo Muani, les Konaté, les Upamecano, tous ces mecs aux dents longues, les Tchouaméni, les Kamavinga, même si Kamavinga, depuis, le pauvre, il s'est blessé. Mais bon, bref, tu vois, toute cette nouvelle génération, la plupart qui n'ont pas été champions du monde en 2018, même tous, hormis lui, très jeune, qui a très confiance en elle. Et ces mecs-là, je pense qu'ils se reconnaissent vraiment en Kylian Mbappé comme chef de meute. Et je pense qu'ils reconnaissent plus Mbappé comme l'un des leurs, si je puis dire, en caricaturant, plutôt qu'un Antoine Griezmann, qu'un Olivier Giroud, que d'autres mecs comme ça qui sont un peu plus sur la fin et qui ont peut-être une autre façon de voir les choses et de penser les choses, de penser le football. Et voilà. Donc je trouve que c'est une excellente émanation de sa génération, et en ça, ça fait de lui un bon capitaine de route, un bon capitaine de navire. Il y a autre chose que je trouve qui est très bien dans son bilan, c'est sa relation avec Griezmann, justement. Moi, je me fie au terrain parce qu'il n'y a que ça qui compte, et même en dehors, il n'y a pas eu de remous depuis qu'il a été nommé capitaine. Griezmann a fini par bien le prendre, et on voit, alors je pense que c'est surtout du fait de Griezmann plus que du fait de Mbappé, mais malgré tout, Mbappé, il a étouffé personne. Cette relation avec Griezmann, pour moi, c'était le danger, le petit point. Parce qu'il faut se souvenir que quand il a été nommé capitaine, on a eu un moment, une rumeur, un bruissement comme quoi Antoine Griezmann allait mettre fin à sa carrière internationale. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Mais malgré tout, voilà, on voit un Griezmann qui est épanoui en club, en équipe de France, qui est au sommet de son art. Et je pense que si Mbappé avait été despotique, ou si Mbappé n'avait vraiment pensé qu'à lui, ou si il prenait trop de place en équipe de France, ça aurait été dur pour un Griezmann, dont on sait, lui plus que les autres, même si tous les footballeurs c'est un peu le cas, mais lui plus que les autres, qu'il a besoin d'un environnement propice, de se sentir bien, d'être heureux pour être bon. Il est bon, donc il est heureux. Donc Kylian Mbappé, quelque part, il doit bien faire le job. Donc pour moi, le bilan est plutôt positif.
Alors avant d'être sûr que le bilan est positif, j'attendrai de voir la première compétition internationale des Bleus. Ce sera donc l'Euro 2024 Évidemment. En Allemagne, pour voir comment ça se passe quand ça tangue.
C'est vraiment un peine gros, à jouir, Maxime.
Didier Deschamps, c'est marrant, dans un moment de très forte sincérité, a avoué que Griezmann était son chouchou. Ce qu'on savait déjà et ce qui se voit très bien. Et c'est pas un problème, parce que je pense que globalement tout le monde aime Griezmann et que c'est un coéquipier quand même modèle. Et il a eu ces mots dans la semaine en disant qu'en gros il jugeait que Griezmann était sous-coté. Alors j'adore Didier Deschamps, mais vraiment j'apprécie tout ce qu'il a fait depuis plus de 10 ans en équipe de France. Ne pas lui donner le brassard, c'est aussi le sous-coté. Ouais. Voilà, de ne pas prendre en compte ce que Griezmann représente. Son don de soi, l'exemple qu'il est, parce que je suis d'accord avec toi, tu me dis il y a des jeunes, etc. pour Mbappé, oui, mais je pense que le lien intergénérationnel, Griezmann, il doit le faire assez bien quand même. Justement,
rien qu'avec Dembélé, donc voilà. Avec lequel il est très proche.
Donc je trouve que ça aurait été un très très bon capitaine aussi. Après, moi, après, c'est la valeur qu'on donne au brassard finalement, parce que en fait, on est dans l'ère des capitaines stars un peu, c'est-à-dire que comme Ronaldo, et souviens-toi quand il est arrivé, c'était de dire bon, lui donner le brassard, en plus, c'est peut-être permettre pour lui de s'ouvrir aux autres. Non, je pense que Mbappé reste ce qu'il est. Et c'est comme ça, c'est son caractère. Moi, je n'en veux pas. Je ne pense pas que le brassard de capitaine du Portugal ait changé Ronaldo. C'est des personnes, c'est des individualités, des individus qui portent l'archage sur les épaules et qui assument. Mais qui, pour le groupe, je ne sais pas, au-delà de la valeur symbolique, s'il y a vraiment un plus. Il aura parlé trois fois dans l'année. La première fois, c'était en mars, pour présenter évidemment son plan de capitana. On a eu l'impression du patron d'une start-up qui venait de parler de ses collaborateurs avec Griezmann, etc. Il est revenu en juin avant Gibraltar, je crois. Ouais. Et c'est drôle parce que c'était juste au moment de la lettre, ouais, l'envoi exactement. De la lettre. Et en gros, ça a parlé de quoi?
De la lettre.
Ça a parlé de la lettre. Là, quand vous nous écouterez, vous saurez de quoi il a parlé. Mais à mon avis, ça va beaucoup parler du PSG et ça va beaucoup tourner autour de lui. Ah oui. Donc le problème, c'est que bien malgré lui, en plus, et de la faute.
Et ça, pour le coup, il y est pour rien.
Oui, oui il y est pour loin, mais c'est il y est pour rien, mais c'est aussi un cas. Enfin, c'est pas pour rien aussi si Griezmann est venu parler autant que lui, si ce n'est plus depuis le début de l'année. C'est parce qu'on sait que ça va être autre chose. Et ça fait aussi partie de la vie d'une équipe. C'est-à-dire que si des choses polluent, ce n'est pas forcément bon pour une équipe. Imagine que l'été prochain, il vient de faire toutes les confs d'avant Euro et que chaque fois, ça parle de son avenir.
Mais c'est pour ça qu'il ne les fera pas, toutes les confs.
Ouais. Oui, mais c'est un problème. C'est-à-dire que tu t'amputes quelque chose de ton équipe. Et finalement, évidemment, nous, on a fait Loris, on l'a fait en long, large et en travers dans les compètes. Le mot d'ordre, on peut le dire maintenant, c'est-à-dire on va écouter Loris, mais on est à peu près sûr qu'il n'en sortira rien et qu'on n'en fera rien, nous, en matière. Mais n'empêche que c'était une manière aussi de mettre parfois des problèmes sous le tapis et d'oublier les choses et de laisser l'équipe au calme. Là, ce n'est pas exactement pareil parce que ça pollue. Alors évidemment, c'est Gibraltar. Et j'aime bien aussi quand il y a eu justement la conf de juin avant Gibraltar. Moi, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui me disent « Mais vous voulez qu'on parle de quoi ? Vous voulez qu'on parle de Gibraltar ?» Bah, pourquoi pas ? Et pourquoi on parlerait pas de l'équipe ?
Oui, mais Maxime,
pourquoi on parlerait que du mercato ?
Si t'es tout
PSG
à fait franc, si t'es parmi ces journalistes et que tu dois poser une question évidemment à Kylian Mbappé, tu poses une question sur la défense de Gibraltar ?
Non, mais peut-être que j'essaierai de lui poser une question sur les choses un peu plus globales. Essayer de me démarquer, parce que de toute façon, on peut quasiment faire la liste des questions qui sont posées à Kylian Mbappé.
Ah bah oui, ça va être ce qui s'est passé cet été, ce qui se passera l'été prochain, les pics de Luis Enrique, et je peux tout te faire. Hein, mais ça, c'est... Et puis peut-être qu'on lui demandera même peut-être un avis sur le conflit israélo-palestinien, ce qui est tout à fait possible.
Ce qui est tout à fait possible.
Donc évidemment, moi aussi, je ne vais pas prendre sa défense.
Mais encore une fois, moi je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais capitaine. Je pense que Griezmann aurait été un meilleur capitaine. Voilà, c'est juste mon point. Et de dire que Griezmann est sous-côté, qu'il n'est pas vu à sa juste valeur, chez eux, les Didier Deschamps, il le voit à sa juste valeur en le faisant 82 matchs d'affilée, il le fait jouer tout le temps parce que c'est Griezmann. Et on a beau entendre que ce ne serait pas pour lui faire plaisir, je pense qu'il y a une ou deux fois,
c'était aussi pour retenir le fil
et lui dire « Écoute, tu comptes vachement pour moi, tu n'as pas le brassard, mais on a besoin de toi. » Et quand on voit la deuxième mi-temps, c'était contre l'Irlande au Parc des Princes, où là, il est au four et au moulin, on se rend compte du pourquoi, du comment. Et il ne manquait qu'une chose ce jour-là à Griezmann, c'est le brassard autour du bras. Parce que pour moi, c'était lui le capitaine de route des Bleus.
Maxime, j'ai une vraie question à te poser.
Vas-y.
Est-ce qu'après ta femme et ta fille, Antoine Griezmann est la troisième personne que tu aimes le plus au monde?
Non, mais c'est...
mais sois honnête.
Non, c'est le footballeur que j'aurais aimé être.
Ouais.
Parce que il est...
Tu veux que je te dise, Maxime? C'est le manager que tu es.
Ah ouais.
Le collectif, le sens du collectif. Non, mais... Allez, un petit peu moins de talent, tout ça, tu vois, un peu moins, mais...
Il lui manque. Ce qui manque maintenant, c'est qu'il ne marque plus du tout. C'est dommage.
Ah bah si, avec l'Atlético.
Non, mais je parle en équipe de France.
Ah oui.
Voilà, c'est ça, j'aimerais bien qu'il reprenne un peu sa marche en avant, qu'il soit un moment peut-être le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est un footballeur qu'on adore, et même un mec qu'on aime bien. Moi, j'ai qu'une chose à lui reprocher dans sa carrière, c'est un peu sa communication qui est un peu nébuleuse. Je trouve qu'il ne s'est pas assez ouvert aux médias.
Mais ça fait partie du... C'est toujours pareil.
Je pense qu'il s'est trompé un moment.
Mais tu trouves que Mbappé se trouve plus aux médias ?
Oui, mais moi, je ne le compare pas à Mbappé. Je le dis dans l'absolu. Dans l'absolu, je trouve que Griezmann, c'est un débat périphérique, mais je trouve que Griezmann à tout juste sur le terrain. Son départ à Barcelone, il l'a fait pour de mauvaises raisons.
Une année trop tard, en plus.
Voilà, une année trop tard, mais si on sort de cette parenthèse. Après, comme nous l'a dit un de ses anciens coachs, cette semaine, il est allé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était vraiment la pire moment pour aller à Barcelone. Bref. Mais, dans sa relation aux médias, je trouve qu'il a manqué un truc. C'est-à-dire que tous les gamins, tous les enfants, même la France adore Griezmann. Et je trouve que dans ce truc-là avec les médias, il les a pris comme des ennemis. Mais je pense qu'aussi les médias, nous, on a notre part de responsabilité.
Mais c'est étonnant parce que toi, tu étais allé le rencontrer, je me souviens, c'était en 2017 à Madrid.
2016.
Justement, il ne donnait pas cette image-là.
Non, hyper sympa, hyper
cool. Et pour le coup, lui, il n'avait pas. C'est vraiment un joueur qui n'a pas de raison de se fermer.
Si, je pense que ce qui s'est passé, je pense que Barcelone, le blackface, il y a plein de choses où il trouve. Je pense qu'il a trouvé que les médias en faisaient un peu. Enfin voilà. Mais je pense que les responsabilités sont partagées. Je dis pas que, mais il aurait fallu, je pense. Et Didier Deschamps l'a dit à un moment dans son mandat.
Il l'a dit il y a pas si longtemps, il me semble.
Qu'il aurait dû s'ouvrir un peu plus.
Pour le Ballon d'Or notamment. Il l'a dit cette semaine.
Il a donné une interview à AS, je crois.
Ouais.
Mais même au-delà du Ballon d'Or, je trouve qu'on aurait gagné à l'entendre peut-être un peu plus dans d'autres formats peut-être, des face à face. Je trouve que c'est un peu ce qui a manqué à sa carrière. Je pense qu'il y reviendra avec la fin. De toute façon, les enjeux, ils sont. Voilà, il a pris de la bouteille. Peut-être qu'il va s'ouvrir un peu plus, mais c'est ce qui leur a manqué un peu.
Oui, parce que comme tu l'écrivais cette semaine dans un de tes deux papiers sur Antoine Griezmann,
j'ai le seul à avoir lu, je crois.
Je sais plus lequel. Bah oui, le Ballon d'Or, il lui échappe aussi pour ça, et parce qu'il n'est pas au Real avec toute la machine qu'il y a derrière. C'est sûr que 2018, vous mettez Griezmann au Real, Modric à l'Atlético.
C'est vite vu. Hein.
Et même sans gagner la Ligue des Champions.
Le truc est réglé. Hein.
C'est réglé, Griezmann et Ballon d'Or, ce qui aurait été quand même amplement mérité.
Mais enfin, bon, on sera triste quand il arrêtera.
Ah oui. Et il sera temps de se poser la question de sa place dans l'histoire du football français, qui sera très très
haute. On va pas entamer ce débat, mais top 5 minimum. Allez.
Ah bah oui, mais voire même un peu plus haut, je pense. Oui, je pense.
Calme-toi.
Attendons, je pense qu'il va jusqu'à la Coupe du Monde.
On se calme, Maxime. Troisième sujet, lui peut-être qu'un jour il sera dans le top 5 aussi. Qui sait ? Pourquoi pas ?
Peut-être.
Hein, pourquoi pas ? Warren Zahir Emery, donc qui est... On a fait un sujet sur lui parce que c'est la seule petite excitation de cette liste quand même. Hein. On ne va pas se raconter d'histoire. Tous les autres, on les connaît bien. Il y en a certains qu'on connaît trop même. Non, il n'y en a pas qu'on connaît trop encore. Mais Warren Zahir Emery, donc, qui a 17 ans, 8 mois et 10 jours demain, pourrait devenir le joueur le plus jeune à connaître une sélection en équipe de France depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Seconde Guerre mondiale, même, je crois, fin de la Première Guerre mondiale, même, il me semble. Il battrait donc Eduardo Camavinga, 17 ans, 9 mois et 29 jours, hein, donc à 1 mois et 19 jours près. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire avec Warren Zahir Emery. Est-ce que pendant ce rassemblement, on va en profiter, la France est qualifiée, tu joues Gibraltar, il faut y aller. Allez, on l'expose. Ils l'ont déjà beaucoup exposé. Hein. Il était en conférence de presse cette semaine. Ou est-ce que, attention, il est jeune, il ne faut pas le griller tout de suite.
Alors, les petits jeunes qui vont en conférence de presse, l'équipe de France, enfin, du moins les nouveaux arrivants, c'est...
Commun.
Commun, voilà. C'est, avant, c'était le premier jour. Ils venaient, ça faisait un paquet de deux quand il y en avait deux. Et puis, point barre. Est-ce que il faut le faire jouer contre Gibraltar ou la Grèce ? Bon, la réponse est oui. Voilà. Encore une fois, là, l'équipe de France est qualifiée. Alors là, il y a l'enjeu des têtes de série. Mais bon, ça, c'est relatif et ça le fera. Et avec le sous-texte derrière, le risque de dire « Oui, mais est-ce qu'on va le griller ?» Non, non, mais là, je pense que de toute façon, ça se verra très vite. Tu as cité Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, qui sont arrivés à 17 ans et 18 ans en équipe de France. Et Mbappé, qu'on avait vu aussi se développer en Ligue des Champions avec Monaco. Est-ce que ça les a grillés ? Non. Est-ce qu'il y a des soubresauts à des moments ? Oui. Les soubresauts de Kylian Mbappé ont été un peu moins accentués que ceux d'un joueur lambda parce que c'est Kylian Mbappé. Mais évidemment que dans une croissance de footballeur, il y aura des moments plus difficiles et peut-être des fois que des joueurs disparaissent. Regardez Thierry Henry, regardez Trezeguet qui, après la Coupe du Monde de 98, était repassé par les espoirs. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, moi, vu de loin, Zahir Emery, physiquement, il a déjà le physique d'un mec de 22, 23 ans. Intellectuellement, il a l'air câblé aussi, pas de problème. Maturité du jeu, intelligence du jeu, ça a l'air d'aller aussi. Donc voilà, en fait, ce qu'il va falloir faire attention, c'est pas tant le terrain pour moi, parce que le terrain, ça ira naturellement s'il continue à rester le type qu'il est. C'est plus les à côté, voilà, où il faudra pas qu'il s'expose et c'est à lui de ne pas changer. Mais en tout cas, moi, je vois aucun problème. De toute façon, on va dire les choses. À partir du moment où il a été appelé, convoqué, pour les gens, il est en équipe de France et il est déjà dans une autre sphère. Donc maintenant, il suffit de lui mettre une cape, ça fera qu'il devient international et il démarrera. Mais en tout cas, moi, je ne vois aucun problème à ça. Surtout qu'on a appris en plus aujourd'hui que Eduardo Camavinga s'était grièvement blessé cette semaine à l'entraînement de l'équipe de France. Donc en gros, il va y avoir, parce que Camavinga, il se blesse en novembre, il n'y aura pas d'euro.
Ça, c'est dur.
Rupture des ligaments croisés.
C'est même dur pour l'équipe de France.
Hein. C'est dur pour lui, c'est dur pour l'équipe de France. Donc, il va y avoir techniquement une place à prendre. Donc, à partir du moment où il est bon avec le PSG, qu'il est bon peut-être en équipe de France.
Et je vais te dire que même sans la blessure de Camavinga entre Boubacar Camara ou même Youssouf Fofana. En fait, là, oui, je pense qu'il faut le faire jouer. Je suis comme toi parce qu'en fait, là, c'est le moment idéal. C'est-à-dire que tu n'as pas de pression du résultat. T'as l'adversaire le plus faible que la France jouera dans les 50 prochaines années. T'as Tchouaméni et Camavinga. Et les 50 dernières. T'as Tchouaméni et Camavinga qui ne sont pas là, donc ça t'ouvre quand même. En fait, qui sont ces concurrents pour démarrer là ? Donc c'est Youssouf Fofana, c'est Boubacar Camara. Je pense que Rabiot et Griezmann seront là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, sur le fait de le griller ou non, il y a deux exemples. Sur les dernières années, donc il y a Mbappé qui arrive à 18 ans, qui n'a pas été grillé, qui n'a pas été traumatisé, tout s'est bien passé. pas de problème. Il a enchaîné Ligue des Champions, sélection, et derrière, pas de creux dans sa carrière. Il y a Camavinga. Et lui, Camavinga, Didier Deschamps en a suffisamment parlé. Il a souvent mis le creux qu'a connu Camavinga après l'automne où il a été sélectionné en équipe de France sur le dos de l'équipe de France, en disant bah oui, ça a été dur à assumer pour lui. Et il y a eu un vrai creux quand même pour Camavinga. Ouais, il y a eu un an, voilà. Après, il est parti au Real, la première année compliquée. Bon, voilà. Il y a eu un vrai creux pour Camavinga. Mais si on devait comparer Warren Zaïre-Emery à l'un des deux, on le comparait un peu plus facilement à Kylian Mbappé qui jouait la Ligue des Champions. Et qui même était dans un club beaucoup moins exposé que le PSG, c'est-à-dire que Camavinga, il a pris la tempête, Camavinga, après, l'équipe de après ses élections en équipe de France. Zaïre Emery, de toute façon, il y est, lui, dans la tempête. Il est dans l'ouragan, il est au PSG. Donc, tous les jours, pour lui, c'est la tempête. Et je dirais que, en plus de Kylian Mbappé, je trouve que Zaïre Emery est encore peut-être plus mature. Il a ce côté moins Mbappé, on a l'impression... que rien ne lui faisait peur, qu'il était peut-être dans un truc, il avait quand même quelque chose de frais. Warren Zaïre-Emery, on a l'impression que c'est un vieux dans un corps de jeune. Moi, à son bizutage, je pensais qu'il allait chanter Petite Marie de Francis Cabrel ou du Michel Fugain. Et finalement, il chantait au quartier Cellarès. Ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit, ça reste un gamin. Voilà, ça reste un jeune adolescent de son âge. Mais franchement, sinon pour tout le reste, aussi bien dans son jeu que comment il se comporte, dans ce qu'il dit, dans ses interviews, où il a un côté un peu lioricien, j'allais dire. Mais voilà, c'est un jeune dont on a l'impression qu'il peut lui arriver une tempête, un ouragan, il restera ancré dans le sol. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, après, je peux me tromper, mais c'est ce que dit à peu près Thierry Henry aussi, il peut tout lui arriver, ça ne le changera pas. Et de toute façon, avec Paris, quand tu as 17 ans à Paris, c'est comme si tu avais 27 ans ailleurs, au PSG. Donc je me fais beaucoup moins de mouron pour lui qu'un Camavinga qui sortait d'un cocon rennais, où finalement, il n'avait pas connu grand-chose, il n'avait pas joué de Ligue des Champions, il y avait la Ligue 1, mais enfin bon, voilà. Zaïre Emery, je pense qu'il y a plus de garanties à ce niveau-là.
Oui, et puis ce qui arrive à Camavinga, tu l'as dit, c'est peut-être... C'est en partie l'équipe de France, parce que je crois qu'il avait disparu de la liste suivante après son appel en octobre. Mais il y a eu le Real, et un joueur, même Tchouaméni, a eu un an pour digérer son transfert au Real. Voilà, c'est pas si simple, et presque la tempête, elle vient du Real autant que de l'équipe de France.
Ouais, alors Camavinga, c'était sa dernière saison à Rennes, c'était raté quand même.
Hein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, le temps de revenir, c'est que tu enchaînes les choses, ouais. Et qu'en plus, il est jeune. Et je veux dire, ce que je voulais dire par là, en fait, c'est que ça peut arriver même un peu plus tard. Voilà. Et il y aura forcément, parce qu'on dit oui. Mbappé, il n'y a pas eu de creux. À l'Euro 2021 et l'après, évidemment, on le garde, il est en évidence parce que c'est Mbappé, mais il est quand même une petite crise de croissance.
Mais qui n'a rien à voir avec ses débuts en bleu.
Ses débuts en bleu, voilà.
Mais aujourd'hui, je trouve que, je t'ai coupé, mais Warren Zaïre-Emery, il y a une espèce de bienveillance autour de lui. Il n'est pas bon à Milan.
Exactement.
Mais personne n'en fait un fou. On va plus insister sur Ugarte qui a vraiment fait n'importe quoi. Et il y a une bienveillance.
Mais pourquoi Parce qu'il est jeune. Français. Parce qu'il est français, oui. Parce qu'il donne tous les gages d'un gamin, je le répète, qui est bien, qui est appelé sympathique. Il parle de faire, ça n'arrivera sûrement pas, enfin peut-être, mais j'y crois pas trop, toute sa carrière au PSG. Il va voir le COP, en fait, il assume, mais il garde un côté sympa. Mm. Et c'est comme dans la vie.
Mais il y aura un moment,
c'est forcé. C'est forcé qu'il y aura un moment, où la fameuse crise de croissance, où il changera un petit peu. Bien qu'on dit ça, on parlait de Griezmann tout à l'heure, c'est un type qui a changé dans sa com, mais finalement l'image qu'il a renvoyée aux gens, c'est toujours un peu la même. Il y aura forcément des crises de croissance ou des soubresauts, mais encore une fois, ce n'est pas lié à dire on le fait jouer dès maintenant
exactement.
Ou dans un an.
Exactement,
à quoi ça servirait de se dire oh là, il est trop jeune, on va attendre après les Jeux? Ben non, parce que s'il est prêt pour y aller,
c'est stupide.
Autant y aller. Et la seule manière de le savoir, vous savez, si vous êtes au bord d'une piscine, vous savez si vous savez nager, faut que vous sautiez dans l'eau.
J'espère que tu le sais avant quand même, parce que...
Oui, non, mais si tu ne le sais pas et que tu veux vérifier, c'est dans la flotte. Mm. Donc voilà, il faut juste... Et là, dernière chose là-dessus, il faut faire confiance à Didier Deschamps.
Oui.
Parce que généralement...
Et à Thierry Henry.
Ouais, les jeunes qui se sont grillés en équipe de France, c'était rarement du fait de la sélection pour les avoir trop exposés ou les avoir mal utilisés. C'est aussi qu'il y a quelque chose qui déraille un peu. Et dernière chose sur Warren Zaïre-Emery, lundi soir, donc il a fait l'entraînement DA.
Ouais.
Puis après, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait voir les espoirs. Et apparemment, il commentait la séance avec Thierry Henry. Donc oui, comme tu dis, il a un petit côté déjà, pas un peu vieux, mais le côté un peu, vraiment, tête sur les épaules, voilà.
Et son formateur au PSG, on l'a eu au téléphone là, il y a quelques semaines, qui lui faisait penser à qui? À Didier Deschamps. Donc un vieux dans un corps de jeune. Parce que Didier Deschamps, à 18 ans, il en avait déjà 40. Hein, donc, Zaïre-Emery, c'est un peu la même chose. Hein.
Alors, ça paraît pas un compliment, mais dans un sport comme le foot, et oui. pour faire carrière, et surtout à ce poste-là, en plus, je dirais. Ouais. C'est plutôt oui, pas mal, parce que tu parlais de la fraîcheur de
Mbappé.
De Mbappé.
Il était fougueux, Mbappé. Mais
oui,
pas
mais il faut.
Côté...
Oui. Parce que tu es attaquant.
Bien sûr.
Là, tu as l'impression d'avoir. Tu as le besoin d'un mec qui va être audacieux, mais quand même, qui a la tête sur les épaules. Et a priori, c'est le cas.
Et maintenant, j'ai une vraie question. Et là, je pense que les gens l'attendent en plus. Je pense qu'ils l'attendent depuis un certain moment. C'est demain, tu es sélectionné en équipe de France, Maxime. Qu'est-ce que tu chantes pour ton bizutage? À mon avis, tu chantes pas au quartier Célarès.
Non, parce que je ne connaissais pas cette chanson.
Petite ma... Ni Petite Marie Francis Cabrel.
Ben, je sais pas. Je
un truc français, parce que tu ne mets pas en danger.
Ouais, voilà, un petit Gainsbourg, un truc qui ne se chante pas, tu vois.
Gainsbourg, mais là, ils vont saigner du nez, là, si tu leur chantes Gainsbourg.
Non, j'en sais rien. Bah, attends, oui, mais j'ai pas 12 ans. Donc,
Non, bien sûr.
Ah, je serais bien embêté.
Un petit Stromae, ça passe bien.
Ouais, mais Stromae, faut donner un peu quand même.
Ouais, mais ça, un petit papa outé. Ouais.
Mais j'ai quand même déjà chanté dans FC Stream Team. Hein.
C'est vrai. Ouais, non. Ah, mais t'as chanté.
Ah, bah oui, j'ai chanté.
C'était une petite escroquerie.
Bah,
moi, je chanterais, je pense que je chanterais du Stromae parce que t'es sûr.
C'est vrai, Stromae, c'est pas mal. Sûr.
Ouais, après, ouais. Peut-être je ferai une de mes compos, tu vois. Mais
ah oui, c'est vrai. Avec ta vie précédente d'artiste.
Exactement, peut-être je ferai une petite de mes compos. Mais bon, je pense que je les perdrai, les mecs. Tu vois, faut être un peu.
Au-delà. Bon.
Ouais. C'est fini.
Tu veux chanter ?
Non, je veux pas chanter. Non, je veux pas chanter.
On va remercier Anne Thirion à la réalisation. Exactement. On va remercier Quentin Guichard au graphisme.
Tout à fait.
On va remercier Martin Mosnier. Et on va remercier.
Sa moustache, c'est ça ?
Non, Aude Baron.
Ah oui, bien sûr.
C'est important de remercier Aude Baron parce que, alors, si vous ne savez pas qui c'est, puisqu'elle n'est jamais apparue dans l'émission, j'ai proposé hier qu'elle
vienne. Elle est déjà apparue dans l'émission, Maxime.
Ah oui, c'est vrai.
Elle est déjà apparue
dans les intros, dans les vieilles émissions.
Alors, mais il y a 5-6 ans, quoi.
Ouais, alors, pour faire simple, Aude Baron, c'est notre boss.
Oui.
Elle quitte Eurosport.
Oui.
Et on va la remercier parce que si cette émission existe. C'est quand même en très très grande partie grâce à elle. Alors il y avait Thibaut Machet aussi qui a quitté Eurosport il y a bien plus longtemps. Et surtout Aude Baron, elle a proposé cette émission alors que nous on faisait jamais de podcast, jamais de vidéo, peut-être pour le bien de l'humanité. Mais en tout cas, elle nous a dit écoutez les gars, allez-y. Et nous on faisait vraiment de l'écrit, on se disait purée, mais il va falloir y aller. C'est violent l'image au départ d'y aller comme ça.
Tout à fait.
Surtout qu'au début c'était pas du podcast, c'était du live.
La première
était dure, vous pouvez la retrouver d'ailleurs.
À la première, on dirait une prise d'otage.
Avril 2016, on teste un truc.
Waouh, c'était chaud.
On n'a pas pris une ride, mais n'empêche que c'était compliqué. Et Aude Baron nous a dit mais allez-y les gars, nous a toujours fait confiance, elle nous a toujours poussé, nous a envoyé en Russie avec une table pour l'émission.
T'as toujours pas digéré.
Que j'ai essayé quand même d'écarter pendant toute l'aventure du monde.
On a quand même fait la Stream Team aux quatre coins de l'Europe. Je veux dire, on l'a fait à Budapest, à Bucarest, on l'a fait à Munich, on l'a fait en Russie, un peu partout.
Ouais, on l'a fait partout. Ouais, aux quatre coins de l'Europe.
Ouais, aux quatre coins de l'Europe. On l'a fait à Roland-Garros.
On l'a fait à
Roland-Garros. On l'a fait au Vélodrome. Voilà, donc.
Et ça, c'est parce qu'elle nous a fait confiance et elle a libéré, comme j'ai jamais à dire, les énergies, alors que nous, on était vraiment des laborieux à dire il faut qu'on fasse nos previews écrits, etc. Laissez tomber ça. Vous faites une émission, ça servira. Ça a servi, ben on lui dit merci.
Voilà, exactement. Un grand merci et bonne chance pour la suite. Et
ben ouais.
Voilà. Hein. Ouais, c'est vrai. On est un peu triste. C'est comme quand Griezmann s'en va, tu vois.
C'est comme quand Griezmann s'en va et on la reverra, on partagera un bon steak avec elle.
Exactement. Bah merci Maxime.
Merci.
T'as bien flingué l'ambiance là.
Ah non, mais.
Oui, c'est la vie. Et puis à un moment, Maxime partira.
Eh ouais.
Sans
ouais.
doute avant moi, bien sûr.
Oui, il faudra faire des chances. Ah oui, ça dépend dans quel sens tu le prends.
Faudra faire sans. Et puis un jour, moi je pense que l'émission ne survivra pas. Moi, à moi, elle ne me survivra pas. Toi, je pense qu'elle peut te survivre.
C'est possible. Mais tu sais, la vérité, c'est comme je dis toujours. Il y a deux choses. Vas-y, voilà ce que tu sais.
Bah, personne n'est indispensable.
Voilà, et la deuxième.
Je sais pas.
C'est un classique.
Je sais pas.
Bah, la nature n'aime pas le vide. Voilà.
Ouais. Voilà.
Donc, et là, on va en laisser un gros.
Voilà. Là, on va en laisser un très gros. Merci à tous. Et bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Salut.
Nouveau numéro du UFC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.